monde. Laurence Aloua. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Et c'est sur la route du blues que nous vous invitons à embarquer aujourd'hui avec deux groupes français, Muddy Gurdy et Delgrez. Muddy Gurdy est un trio auvergnat qui embarque la vielle à roue sur des allers-retours entre les volcans d'Auvergne et le delta du Mississippi. Delgrez est aussi un trio qui a fait le grand écart entre la Louisiane et les Caraïbes avec un blues vitaminé de rock, surtout pour ce deuxième et nouvel album, 4h du matin. Pascal Danaé, le leader du groupe, est notre invité, premier invité. 4h du matin, c'est l'heure à laquelle les braves se lèvent pour aller travailler. Enfin, c'est surtout l'heure de ceux qui n'ont pas le choix. Allez, bienvenue à bord. Pascal Danaé est auteur, chanteur, guitariste et compositeur. Il utilise l'histoire de sa famille pour fabriquer la matière de Delgrez. Sur le clip 4h du matin, on voit le trio jouer dans les docks du Havre, ce qui est un port maritime et aussi un port de plaisance. Et c'est là que le père de Pascal a débarqué en 1958.
Il est arrivé en France en passant par le Havre.
Parce que c'était le bateau qui l'amenait de la Guadeloupe.
Voilà, exactement.
Vous n'étiez pas né encore à cette époque.
Non, mais j'allais pas le tarder parce qu'en fait, ma mère, quelques années plus tard, l'a rejoint en 62. Moi, je suis né en 63.
En métropole.
Oui, le fruit des retrouvailles.
Le fruit des retrouvailles. Et alors, est-ce qu'on parlait le créole à la maison? Est-ce que vous l'avez appris ou pas?
Oui, on parlait le créole. Enfin, ils parlaient créole, entre eux, donc avec mes frères et sœurs. Moi, je suis le dernier d'une famille de 6. Donc, ils parlaient créole entre eux, ils parlaient créole à mes frères et sœurs. Moi, comme j'étais le petit dernier né en France, on ne parlait pas créole.
C'était une volonté de leur part pour que vous vous intégriez mieux que les autres.
Oui, je crois que c'était vraiment ça. C'était l'idée, c'est maintenant on est en France, il va à l'école en France, donc on ne va pas le perturber avec des mots de créole et autres. Voilà, on va lui permettre de faire des études. Donc, pas de perturbation.
Et ces études en France se sont bien passées?
Oui, plutôt pas mal. J'ai fait une fac d'anglais au début. Mais pendant tout ce temps-là, je commençais à faire de la musique. Mais pour moi, c'était pas « tiens, je vais devenir musicien ». C'était « je fais de la musique, j'adore ça ». Mais voilà, c'était… Et puis un jour, je me suis réveillé quand même. J'ai dit « bon, mais quand même, cette histoire de musique, c'est vraiment bien. Il faut que je fasse quelque chose avec ça ».
Vous avez commencé à tourner avec Laurent Voulzy, mais ça c'était il y a très 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 longtemps. Ouais. Avant d'entamer cette carrière avec Delgrès, il y a eu d'autres groupes, il y a eu River Noir, vous avez sorti cet album aussi quand vous avez passé quelques années à Londres. Et puis il y a 3 ans, il y a cet album Mojodi, Mort aujourd'hui, qui fait référence à la mort de Louis Delgrès, qui était un militaire d'origine martiniquaise et qui a combattu en Guadeloupe contre les troupes napoléoniennes. Et quand ils ont été coincés avec son régiment, je crois qu'il y avait 300 soldats, ils se sont fait sauter la dynamite, suivant l'adage, la devise, vivre libre ou mourir. Et lui, il a décidé de mourir. En donnant ce nom, Delgrès, à votre groupe, vous ouvrez un pan de l'histoire qui n'est pas forcément bien connu, parce que quand on parle des Caraïbes, on pense tout de suite à Toussaint Louverture, mais pas à Louis Delgrès.
Ouais.
Et donc, ça n'est pas anodin. Qu'est-ce que vous voulez dire à la Maison France, et pas simplement à la Maison France, du reste?
C'était surtout déjà ouvrir ma propre histoire, mon propre livre d'histoire, puisque j'ai entendu parler de lui tard dans ma vie. Mon père m'a parlé de lui il y a bien des années, d'une manière totalement comme ça, informelle. C'est passé, tu vois, j'ai presque oublié son nom. Il a fallu attendre un moment où j'étais vraiment au plus bas dans ma vie et je me posais tout un tas de questions existentielles par rapport aussi à ma place en tant qu'Antillais dans la société française. Et j'ai repensé à cet homme qui est mort digne, d'une manière très très noble, qui était un combattant. Et donc, cette figure-là m'a fait énormément de bien. Et donc, j'avais besoin de lui, en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire la première chanson, qui allait devenir Mojodi, et qui parle vraiment de son sacrifice. On est allé, on a joué la première fois qu'on a joué en Guadeloupe, c'était à Basse-Terre, à l'archipel. Donc, on était à quelques, finalement, centaines de mètres de lui, du Fort Delgrès. Et super émotion, à la fois le concert et le fait d'être plus près de lui. Donc c'était assez émouvant.
Et chanter en créole devant un public qui a entendu le créole essentiellement dans la musique zouk, ça faisait quoi?
Eh bien, c'était génial. Ce qui était intéressant, c'était qu'il comprenait toutes les paroles. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis le début. On avait joué un peu partout, États-Unis, voilà, Québec, n'est-ce pas? Mais les gens ne comprenaient pas toutes les paroles, même s'ils comprenaient l'ambiance et l'envie, la tonalité. Mais là, d'un seul coup, se retrouver devant des gens qui comprennent chaque nuance, chaque parole, on peut la garder dans les yeux et ils comprennent tout, eh bien, ça, c'est hyper fort.
Pascal Danet, vous présentez le trio Delgrès aujourd'hui dans ces musiques du monde. Le titre qu'on vient d'entendre, Aléa, est sur le nouvel album qui s'appelle 4h du matin, 4 a.m, 4h du matin. Vous voyez, on est trilingue dans cette émission, mais c'est surtout grâce à vous. Il y a un clip qui est lié à cette chanson. Ça se passe dans un aéroport, sur une piste d'atterrissage ou de décollage, avec magnifique chorégraphie. En général, les clips chorégraphiés, ça fait plutôt R&B américain. Mais non, Delgrès s'en est emparé. On parle du papa qui part en métropole et qui laisse la famille en Guadeloupe, c'est ça?
Alors, c'est un des aspects de cette chanson. Parce que pour moi, le thème, c'est vraiment la séparation. C'est une chanson qui, contrairement à beaucoup d'autres chansons où la mélodie et les paroles sont venues assez rapidement, cette chanson-là, eh ben, la mélodie et les paroles sont venues très tard par rapport au moment où on a eu la musique. Et il a fallu attendre une espèce de fulgurance. À un moment, on était en studio en train de faire la pré-prod, où je suis parti comme ça, d'un seul coup, c'est arrivé. J'ai dit, attends. Le micro est là? Oui, ok, j'y vais. Et j'ai tout balancé, en fait. Donc, ce qu'on entend sur l'album, c'est véritablement un freestyle, en fait, où je suis parti et j'ai fermé les yeux. Et j'ai parlé de toutes ces séparations. Donc, oui, le papa qui s'en va. Donc mes frères et sœurs qui le voient partir potentiellement sur ce bateau en 58, puis ils ne savent pas s'ils vont le revoir. Parce que pour les enfants, c'est éternel quand les parents s'en vont. Et puis, je parle de la séparation, c'est mon frère qui a disparu.
Vous avez un frère qui est mort dans un accident de voiture.
Ouais.
Et vous lui consacrez une chanson.
Quand j'avais 15 ans. Donc, au bout d'un moment, je réalise, voilà, et je pose la question même dans cette chanson. Je dis, voilà, est-ce que c'est vraiment le destin de l'humanité? Est-ce qu'on est là, on doit venir finalement, apprendre à s'aimer? Et puis, au bout, il y a toujours cette séparation. J'ai aimé appeler cette chanson « Les aléas » parce que finalement, c'est ce qu'il faut faire, c'est que la vie, c'est comme ça. Il faut prendre la vie telle qu'elle est, avec ses moments compliqués, cette séparation, et en faire des aléas, c'est-à-dire des choses qui arrivent, finalement, les accepter. Et puis surtout, le message, c'est bah, tant qu'on est ensemble, et ça, c'est le message du clip, tant qu'on est ensemble, eh ben, on en profite, on en fait quelque chose de positif.
Oui, vous avez bien dû rigoler, là, sur la dernière année. On était tous chez soi, derrière des écrans d'ordinateur, à se draguer, à se parler, à boire des apéros, à travailler.
Oui, à trouver des moyens, à être
comment
super
vous en
créatif.
Avez profité?
Bah, déjà, j'en ai profité en étant avec ma famille, parce que c'est vrai qu'on a énormément tourné ces dernières années, beaucoup de temps passé sur les routes, et il était prévu, puisqu'on a enregistré l'album en janvier 2020, il était prévu en avril qu'on reparte en Louisiane. Donc on allait repartir sur les routes encore. Et finalement, la vie m'a offert cette espèce de parenthèse où à la fois j'ai pu peaufiner l'album et en même temps profiter de la famille. Donc au début, comme beaucoup de gens, je crois, il y a une espèce de pause forcée là qui a été vraiment savourée. Et puis, au bout d'un certain temps, comme les blagues, il faut que ce soit court. Et là, la blague a un peu trop duré, mais en tout cas, au début, j'ai adoré.
C'est Mola, cet extrait du tout nouvel album de Delgrès qui s'intitule 4h du matin, donc 4h du matin. Ce morceau n'est pas très drôle non plus parce que vous évoquez votre petite sœur qui fait l'apprentissage du racisme.
Ouais. Alors en fait, c'est ma grande sœur. Parce que,
oui, petite sœur.
Elle était petite à l'époque.
C'est vous le plus petit.
Et voilà. Et en fait, c'est quand mon père est arrivé en métropole, il est arrivé avec deux de mes sœurs. Donc il y en avait une qui avait 10 ans et l'autre qui avait 4 ans, 3 ou 4 ans. Donc celle qui avait 10 ans s'est retrouvée. Voilà, confrontée toute seule, c'était devenue l'aînée. Et elle était la seule black dans son école. Et elle a été confrontée, bien entendu, en 1958, on peut imaginer, à une forme d'intolérance face à sa différence. Elle ne m'en a pas beaucoup parlé, mais suffisamment pour que je sache que voilà, ça n'a pas été facile. D'autant plus que c'est vraiment une personnalité forte, une battante. Mais voilà, comme ça m'a touché, le fait qu'elle soit toute seule avec mon père, qui lui déjà avait tout ça à faire, tout ce travail d'arriver à fournir pour sa famille, j'ai imaginé cette conversation entre elle et mon père. Le moment où elle rentre de l'école et il voit qu'elle ne va pas bien et il demande qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi ce qui s'est passé. Et qu'elle ne peut pas parler parce que ça l'a trop touchée, parce que les mots restent bloqués dans sa gorge et que ces mots lui ont brûlé le cœur et la peau. Voilà.
Elle vous a tracé le chemin, elle a ouvert la voie. Comment ça s'est passé pour vous ?
À l'école ?
Oui.
Bah, très bien. C'est vrai, vraiment.
C'est la grande sœur qui a tout pris, quoi.
Un peu. Je pense que vraiment, oui. Alors après, il y a ceux qui sont restés aussi derrière. Ils ont pris d'une autre manière. Alors, je ne sais pas, peut-être que le fait de rester avec la maman, c'était peut-être plus facile. En tout cas, je sais qu'elle a dû prendre sur elle beaucoup. Elle a dû avoir beaucoup de courage. Et pour moi, c'est vrai que ça a été plus facile. Mes parents étaient ensemble, ils étaient réunis.
Voilà, ils vous ont fabriqué.
J'étais vraiment un trait de génie. Mais voilà, il y a toujours cette petite différence, ce petit truc comme ça qu'on sent, ce petit poids, et qui, au fur et à mesure du temps, pèse.
C'est en résumé ce que vous dites dans le titre « L'école ».
L'école, oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des promesses qui ne sont pas tenues. Tout simplement le fait de respecter les règles. Parce qu'il y avait un désir très fort chez mes parents d'intégration, puisqu'ils étaient bel et bien français, mais ils étaient français d'outre-mer, donc ils arrivaient dans un pays qui bel et bien était différent à plein de niveaux. Et leur désir d'intégration, ils comprenaient que ça passait par l'école. Et de toute manière, le fait de respecter les règles, de respecter le directeur de l'école, de respecter le directeur de la banque, voilà. Il y a en plus, venant d'un milieu ouvrier, il y a une espèce de, comme ça, une déférence par rapport aux gens qui sont instruits. Et donc, ils inculquent ça à leurs enfants. Et puis, nous, les enfants, on se rend compte avec le temps que respecter les règles, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Oui, dans cette chanson, il y a un petit... Je suis sur un ton qui n'est pas amer, mais un peu acerbe, comme ça.
Delgrès sort un nouvel album, on dit 4 p.m, 4h du matin, 4h du matin, qu'est-ce que vous préférez Pascal Danaé?
On dit ce qu'on veut. J'aime la liberté.
Oh bravo, vivre libre, non, restez en vie, restez voilà. Avec nous. Vous avez commencé la guitare à l'âge de 15 ans, c'est ça?
Ouais.
Et dans votre famille, vous étiez le seul à prendre un instrument, puisqu'il y a 6 enfants, papa et une maman?
En fait, mon père jouait de la musique déjà, il jouait du violon, de la scie musicale aussi, il chantait.
Oui. Ouais.
Et ça, depuis très très longtemps, quand il était à la Guadeloupe, il faisait partie d'un orchestre. Et donc, j'ai deux grandes sœurs qui chantaient. Et puis, maintenant, la musique était à la maison, ça faisait partie de nous. C'était vraiment omniprésent, quoi. Donc, j'ai presque tardé, finalement. À vrai dire, à l'âge de 5 ans, je voulais jouer de la batterie. Et c'était pas possible parce qu'on était en appartement. Et puis, un jour, j'étais en vacances avec mes parents. Puis, on m'a prêté une guitare et puis c'est parti. Moi, on m'a filé un petit bouquin avec les 4 premiers accords, genre Do majeur, Sol majeur, voilà. Et puis, ce sont les accords de la musique folk. C'est la musique, moi, immédiatement, j'ai retrouvé des trucs que j'adorais, c'est-à-dire Bob Dylan, tout ce qui me permettait de faire le voyage immobile, de m'évader. Et c'était fantastique parce qu'avec ces 3-4 accords, je pouvais jouer des milliers de chansons, plus ou moins bien, mais en tout cas, ça s'en approchait suffisamment pour que je parte, pour que je voyage.
Est-ce que le créole est une langue qui est agréable à mastiquer, à faire bouger dans la bouche quand on fait une forme de blues?
Ah oui, justement. C'est pour ça qu'elle s'est imposée, en fait. parce que spécialement dans le style de blues qu'on fait, qui est plus proche de celui de Skip James, c'est un blues qui est à mi-chemin entre la Louisiane et le Mali. Donc on est dans une forme de transe.
Entre Bo Diddley et Tina Riwen.
Ouais, totalement, exactement. Je trouve que le créole, ça permet vraiment d'entrer dans une espèce de truc semi-méditatif, mais en temps en temps donnant des petits coups de griffe par certains mots, certaines expressions, mais tout ça dans une espèce de transe qui s'installe, qu'elle soit lente ou rapide, intense ou plus clair de lune. Vous voyez ce que je veux dire? Par moments, c'est vraiment, c'est tellurique, c'est solaire, puis d'un moment, ça n'est plus sur un bateau, là, en train de voguer au clair de lune. Mais toujours cette possibilité de mâcher ces mots comme ça, de les faire tourner effectivement agréablement dans sa bouche.
À quel âge vous vous êtes rendu en Guadeloupe la première fois?
Alors, je devais avoir 37 ans.
Pas avant?
Non, parce qu'en fait mes parents avaient complètement coupé les ponts avec la Guadeloupe. Ils sont venus avant le Bumidome, donc il n'y avait pas ce truc du congé bonifié. Et j'ai jamais vraiment su pourquoi, mais je pense qu'ils ont vraiment tourné la page. Ils se sont dit bon, là on va se refaire une vie.
On termine cet entretien, Pascal Danaé, avec un extrait de votre tout dernier album, 4h du matin, 4h du matin de Delgrès. Alors le titre est très énigmatique, extrêmement mystérieux, c'est Lundi, Mardi, Mercredi.
Effectivement, il y a des thèmes d'exaspération, comme on le disait tout à l'heure, qui sont présents dans cet album. Et il y a un des thèmes qui m'est cher, c'est l'aliénation, qui est liée au travail, le travail subi. Et il y a des gens, effectivement, pour qui c'est véritablement comme ça. Quand on sort de l'enfance, de ce moment où effectivement on pense que tout est possible, la pensée magique, eh bien, parfois on est confronté assez durement à une réalité qui est bel et bien, bah, je me lève tous les jours et je fais une espèce de truc comme ça. Et même quand on aime son travail, il y a un côté comme ça, un peu aliénant ou d'un seul coup. Vous allez voir que tous les jours, il faut te lever à cette heure-là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ça continue. Voilà. Quand on a la chance de garder son boulot, ça continue comme ça jusqu'à la retraite.
Merci Pascal Danaé.
Merci.
Musique du monde sur RFI.
L'aventure Muddy Gurdy, elle, est très différente par rapport à Delgrès. Le projet réunit Tia Goutebel, qui est chanteuse, Marc Glomo, percussionniste, et le violiste Gilles Chabenat. En 2017, le trio s'est envolé vers le Mississippi pour enregistrer un album avec des musiciens de blues locaux et aussi leur faire découvrir la Vielle à Roue. La Vielle à Roue, inconnue au bataillon dans le Delta. Faut dire que la Vielle à Roue serait née dans une abbaye bénédictine allemande au XIIe siècle. Oui, les moines bénédictins étaient très bricoleurs et là, ils ne se sont pas ratés. Bref, en 2021, Muddy Gurdy réitère l'expérience, mais en Auvergne, au centre de la France, avec les frères champions, qui sont des danseurs de bourrée, Louis-Jacques à la cornemuse électrifiée et Guillaume Vardoz à l'harmonica. Are you experienced? Prêt pour vivre cette expérience? En piste.
Poor and needy in this land. Lord help the poor and needy in this land. When we are face the rising sun. Lord, help the poor and needy in this land.
Gurdy sort un nouvel album qui s'appelle Homecoming. Alors, Muddy Gurdy, c'est une belle histoire. C'était en 2017, il y a eu cet album qui s'appelait Hypnotic Wheels, où le trio Auvergnat était parti aux États-Unis, enregistré avec Gilles Chabenat, qui joue de la vielle à roue. Et vous êtes retrouvés donc dans le Mississippi avec les musiciens locaux. Et alors, ce voyage et cet enregistrement avait quelque chose d'initiatique pour vous. Est-ce qu'on peut rappeler avec vous, Tia Gutebel, qui êtes la chanteuse, la guitariste du trio, et vous, Marc Glomeau, le percussionniste, un peu les bases de cette aventure Muddy Gurdy?
C'est parti d'une réunion un peu improbable entre nous, puisque moi, je me suis retrouvé à être un peu le dénominateur commun, puisque j'avais travaillé avec Gilles Chabenat, le violiste, sur un précédent projet avec Marlon Simon, qui était un percussionniste latino-américain installé aux États-Unis d'origine vénézuélienne. On avait travaillé sur la fusion des musiques du centre de la France, afro-vénézuélienne, avec le jazz un peu comme dénominateur commun, sur un projet qui s'appelait Racine, déjà d'ailleurs, c'était déjà un peu... Et ensuite, j'ai travaillé avec Tia en duo. On travaillait autour de la thématique blues, mais accompagné par des percussions. On a cherché un peu des ambiances un peu différentes. Et puis un jour, j'ai proposé à Tia, dans ce cadre, d'élargir le duo à un troisième larron et d'inviter Gilles, le violiste. Et on a commencé à travailler en 2012 avec le trio Hypnotic Wheels sur cette espèce d'assemblage un peu inédit entre la vielle, la guitare, le chant et les percussions, et en travaillant sur la matière blues, que c'était vraiment le terrain de prédilection de Tia. Voilà ce qui a été un petit peu les prémices de cette arrivée. On a fait d'abord un premier album en 2014 qui était sur des choses un peu psychées, un peu étranges. Et ensuite, on a resserré vraiment les boulons sur quelque chose de très roots. Et du coup, un matin, je me suis levé en disant « c'est l'idéal, le deuxième album, ça serait d'aller le faire dans le Mississippi ». Voilà.
Alors ce nouvel album vous ramène un peu à la maison, vous l'avez appelé Homecoming et vous l'avez donc enregistré en France avec des musiciens locaux. Et la technique d'enregistrement reste la même. De la même manière qu'au Mississippi, vous étiez accompagné par Pierre Bianchi, qui est votre ingénieur du son. Là, vous avez enregistré dans une grange, dans des chapelles, dans un bistrot. On disait même que la tenancière, je le vois sur votre bio, a vu passer certainement plus de vaches que de clients. Racontez-moi un peu qui fait les repérages des lieux, comment ça se passe ?
On avait un petit peu évoqué déjà les chansons, parce que l'idée c'était de relier les chansons au lieu aussi où on allait enregistrer, de former un tout, qui a vraiment des liens, aussi de composer des chansons exprès, en fait, en fonction des endroits. Donc on a fait un repérage avec Marco juste après le déconfinement, donc c'était absolument génial, on s'est retrouvés au printemps, dans nos volcans, avec une vue à 360 degrés, autant dire que c'était un peu l'extase. Et on a choisi, pareil, comme dans le Mississippi, des lieux qui avaient un lien avec les paysans, avec les légendes aussi ici, parce qu'on a lu aussi des choses sur... On a appris beaucoup de choses sur chez nous, en fait. Donc l'idée, c'était de faire le lien avec les invités, les chansons et les endroits qui étaient beaucoup des endroits aussi qui étaient un peu mystiques, pas forcément connus, difficiles d'accès pour certains, notamment une des chapelles.
On a travaillé avec quelqu'un en plus qui, sur le repérage des lieux, qui connaît très bien la région parce qu'il s'appelle David Cabal. Il a créé un festival qui s'appelle Art Air qui a lieu l'été et il crée en fait des randonnées et qui arrivent sur un spectacle. qui est en pleine nature. Alors ça peut être de la musique, ça peut être autre chose. Et on se retrouve comme ça. Nous, on a déjà joué pour ce festival où on se retrouve avec une scène sur deux ou trois palettes, un tapis avec un groupe électrogène et on joue devant une cinquantaine de randonneurs qui déboulent de la montagne comme ça d'un coup. Et c'est lui, moi je l'avais appelé pour lui demander de nous aider sur le plan logistique et sur les repérages aussi parce qu'il connaît très bien la région. On avait déjà un petit peu ensemble vu un petit peu ce qui nous intéressait d'exploiter comme lieu. Voilà, ça a été une chouette collaboration.
In a hollow tree, like on a throne, Black Madonna is away. Find her to celebrate with Pharaoh's mother. When they found her like a precious jewel, and they carried her. During the night, she shed some tears, blood tears, blood tears. She ran away and went back to where she used to stay in the morning, 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 Black Madonna showed up in her tree and brought her back.
Dans cette chapelle du XIIe siècle, quel morceau vous avez enregistré avec qui ?
Alors, on a enregistré avec un harmoniciste qui s'appelle Guillaume Vargoz, qui fait de la musique traditionnelle. Alors, lui, il est de l'Isère. Donc, je pense que sur les musiques traditionnelles, il a dû certainement jouer différentes musiques de différentes régions, puisque c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une grande palette et qui, je l'ai entendu jouer du blues aussi, qui joue magnifiquement bien.
En fait, il joue avec un son naturel, quoi. C'est-à-dire qu'il joue vraiment
en acoustique.
L'harmonica remplace un peu l'accordéon quelque part dans les musiques traditionnelles, et il a été très présent dans les musiques d'Auvergne, ce qu'on sait relativement peu, hein, parce qu'on pense plutôt à la cabrette, à la vielle. Et l'harmonica était vraiment l'instrument des bergers, quoi. C'était un instrument facile à mettre dans sa poche, qui pouvait tenir compagnie aux bergers quand ils montaient dans les estives avec ses bêtes. Et le son est toujours très pur, très clair, et c'est pour ça que ça nous intéressait d'avoir ce musicien-là, qui joue pas du blues, justement.
Sur le morceau qu'on a enregistré, c'est Black Madonna.
Un titre que vous avez composé, Tia Gutebel.
Oui, en fait, j'étais intéressée par les Vierges Noires depuis pas mal de temps. Je m'étais dit, depuis un moment, qu'il fallait que j'écrive quelque chose sur ces Vierges qui, pour moi, représentent des femmes indépendantes, qui sont libres et qui sont aussi, certaines sont très représentatifs du lien des voyageurs. J'avais envie d'écrire sur les Vierges Noires, donc je me suis documentée, puis j'ai un petit peu créé une histoire qui rassemble plusieurs légendes de Vierges Noires.
Alors, vous avez aussi invité Éric et Didier Champion, les frères Champion, des musiciens et des danseurs de bourrée. Vous l'expliquez au monde entier ce qu'est la bourrée.
La bourrée, c'est vraiment une danse populaire, très ancienne. Et les frères Champion, qui ont respectivement, on va dire, 60 et 62 ans, qui sont des musiciens, je le précise, amateurs, qui sont des enseignants, qui enseignent dans des collèges ou dans un lycée technique, en l'occurrence, sont des gens qui ont travaillé, vraiment fait un gros travail sur les musiques traditionnelles en créant une association qui s'appelle les Braillots, où ils enseignent les danses, les musiques, les instruments. Il y a énormément de jeunes, je dis bien des jeunes, qui sont dans cette école. Ils organisent plein de choses et ils ont fait depuis 40 ans un travail sur la danse, sur la bourrée, en collectant chez les anciens les pas de danse, en allant regarder des gens dans les pays, tout ça. Et puis ils ont créé, en fait, ils ont complètement décloisonné la bourrée qui était quand même enfermée dans le folklore avec cette image de costume traditionnel, les sabots et plan, et plan et machin. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont complètement rafraîchi en créant vraiment une bourrée qui n'appartient plus à une espèce de communauté comme c'était le cas avant. Il y avait la bourrée qui était la bourrée de tel endroit, qui n'était pas la même que la bourrée de tel autre. En fait, simplement parce qu'il y a un gars qui avait fait un geste à un moment donné à tel endroit et on avait dit ben, quand on fait ce geste-là, c'est que la bourrée est d'ici. Ailleurs, on le fait autrement. Enfin bref, eux, ils ont essayé de passer un petit peu au-dessus de ça. Et je trouve qu'ils ont élevé vraiment cette danse à l'état d'un art chorégraphique populaire. Et c'est magnifique parce que bon, ces deux personnages qui font respectivement une centaine de kilos, quand on les voit danser, c'est des anges, c'est des plumes, c'est hallucinant. Ils glissent. C'est formidable.
Vous les avez enregistrés dans la grange, dans le bistrot ?
Nous, on a fait un truc, c'est qu'on a enregistré en plein air avec eux sur une sorte de parquet vraiment adossé aux montagnes, au col de la Croix-Morand, avec une vue magnifique. On a joué, nous, carrément, c'est installé sur ce parquet, on a joué pour les faire danser, on a joué un vieux morceau de Fred McDowell que les Stones ont énormément popularisé, qui s'appelle « You Gotta Move ». Ce morceau-là, moi, j'avais en bossant dessus un petit peu, j'avais remarqué qu'à un moment donné, je m'amusais à faire des passages bourrés à l'intérieur du morceau. Et du coup, ça fonctionnait plutôt pas mal. Et on a eu, en fait, l'idée de demander aux frères Champion de danser sur ce titre. Donc, et dans le passage bourré, il y a tout un... Ils dansent pendant tout le long du titre et ils font des variations. Et on a filmé tout en temps réel. C'est-à-dire le morceau tel qu'on l'enregistre, tel qu'il est sur le disque, en même temps... Les frères Champion dansent et c'est visible quand on achète le disque. Il y a un petit code avec un code d'accès où on va sur le site internet de Muddy Gordy. Il y a marqué bonus. Vous cliquez là-dessus, vous rentrez le mot de passe et vous pouvez télécharger la vidéo où on les voit danser sur notre musique.
You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. When the love gets ready, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be rich, high, you may be poor, but when the love
Marc Glomo, Thiago Tebel, donc du groupe Muddy Gurdy, ici pour présenter le nouvel album Homecoming. Je me demandais quel morceau avait été enregistré la nuit dans un cratère de volcan.
C'était Strange Fruit.
Alors Strange Fruit avec la voix de Tia Gutebel, qu'est-ce que vous y avez mis comme intention, Tia, dans ce morceau? Parce que bon, tout le monde se souvient que Strange Fruit, c'est Billie Holiday qui l'a changé. Ouais. Elle évoquait quelque chose de très précis, donc les Afro-Américains qui étaient pendus aux arbres, c'était ça, les fruits très spéciaux. Donc ça rappelle une histoire épouvantable et immonde de l'Amérique du Nord. Vous, quand vous chantez Strange Fruit dans ce cratère de volcan la nuit, qu'est-ce qui vous passe par la tête?
C'est une bonne question. En fait, surtout, ça a été très dur de chanter sans pleurer. C'est vrai que moi, ce que j'aime aussi dans cette musique, c'est ce dont ça parle, l'histoire des gens qui ont créé ces musiques-là. Chanter ce morceau, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, c'était un peu particulier, un peu dur pour moi, en fait. De retenir l'émotion, d'habiter la chanson sans être dépassé par le poids des mots, des images qu'on peut avoir, bien sûr. Donc c'était un sacré défi et je me suis sentie hyper bien dans ce volcan. Je suis chez moi ici, c'est des forces particulières, donc je pense que ça amène beaucoup. L'idée c'était de faire aussi quelque chose de très épuré et puis une version évidemment différente, parce qu'on ne fera jamais une version avec la force émotionnelle de Billie Holiday, c'est pas l'idée. Mais je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de chanter cette chanson qui a été, en plus c'est un texte qui a été écrit par un juif, il y a tout plein de choses derrière cette chanson, mais aujourd'hui ça a encore du sens malheureusement, même si on dit qu'il n'y a plus de lynchage. Moi je vais quand même souvent au sud des États-Unis, il y a quand même énormément de problèmes raciaux, donc pourquoi pas la chanter encore aujourd'hui malheureusement.
Sudden trees bearing strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in a southern breeze, strange from the poplar trees. Pastoral scene out again and sound, and a bird in eyes and a twisted mouth, Santa Magnolia, sweet and fresh, and a sudden smell of burning flesh. He's the fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to roll, for the trees to drop.
Musique du monde sur RFI.
Après Muddy Gurdy et Del Grey, je vous propose un dernier tour de piste avec Archie Lee Hooker. Le neveu de John Lee Hooker a été chanteur dans un groupe de gospel. Il a vécu dans les murs de Mr. Boogeyman jusqu'à sa mort en 2001. Il s'installe en France en 2011 avec un nouveau groupe, le Archie Lee and the Coast to Coast Blues Band. Living in a Memory, c'est le nouvel album.
I'm done lost in a day that I love. And to be alone, I'm just sitting here thinking, looking back.
just sitting here thinking, looking over my life, living in a memories. I lost everything.
La route du blues s'arrête ici et là pour aujourd'hui. Les coordonnées d'Archie Hooker, Muddy Gurdy et Del Grey sont sur la page d'accueil de Musique du Monde sur le site musique.rfi.fr. Donc il n'y a plus qu'à, en prime, vous pouvez même réécouter l'émission. Une fois, deux fois, quinze fois. Oui, enfin après, il faut consulter un spécialiste quand même. Allez, merci et à bientôt.
One, two, three!